Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
C'est dommage que vous n'aviez pas un bruit de porte. Genre, ouais. On ouvre les portes. Les vieilles portes. Attendez. Bien usées.
Alban, notre réalisateur, est-ce que tu as enregistré l'effet spécial qui vient de nous faire réaliser? Ça peut nous servir du coup désormais comme jeu. Il va falloir régresser un peu cette porte.
Bah oui, parce qu'elles sont. Voilà, on n'est plus de toute jeunesse, ouais. Donc elles sont un peu.
Non, mais là, aujourd'hui, il y a des effets spéciaux. Entre Alizé qui fait la porte, Christophe qui fait le tché. C'est quand même.
Mousqueton.
Et puis Maxime Abelin, notre producteur, est très très fort aussi en divers bruits. Ouais, il imite très bien Jean-Luc Roy, par exemple.
Ouais, et les cigales. Mais bon, ça, voilà. Un jour, on fera profiter les auditeurs, hein, parce qu'il faudrait qu'ils comprennent
la saison, peut-être.
L'envers du décor. Les GG cette semaine, ce qui nous a marqué, c'est ça.
Les mousquetons.
En juillet prochain, j'aurai quand même une course.
Ah bon?
Ouais.
C'est-à-dire, laisse-nous deviner. Tour de France.
Ouais.
Ah, ben là.
Ça y est, c'est décidé. Tu sais,
Voilà, vous avez écouté Paul Sexa chez ses grands-parents pour annoncer la grande nouvelle. C'était surtout ça, ce que vous avez écouté cette semaine. Bon, tout le monde l'a signalé, hein, comme une masterclass de communication, ouais. Mais comme quelque chose de sincère aussi, peut-être pour Paul Sexa. Les GG, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle de ça, de l'importance de créer et de raconter sa propre histoire comme Sexa, quand on est sportif de haut niveau, l'importance de se raconter finalement à quel point ça l'est, notamment en début de carrière, pour vous et tout au long de votre carrière de sportif de haut niveau. Tiens Fred, toi, pour le coup, c'est vrai, toi tu t'es plus raconté finalement après ta carrière.
Je
Fred.
Me raconte souvent.
Je me raconte tout le temps, pas tout souvent.
Non mais c'est vrai que tu t'es plus raconté après ta carrière finalement, avec notamment le documentaire de Canal+, Little Big Fred, où tu t'es confié un peu sur tes failles et ta carrière. Pendant ta carrière, comment
j'ai subi.
Tu as subi?
Bah, j'ai subi, oui, j'ai subi. En fait, je suis arrivé, j'étais un des premiers garçons de 2m17 qui bougeait correctement. Donc d'un seul coup, on s'est dit, enfin, c'est formidable, on va avoir ce joueur de basket incroyable, sauf que moi, je viens d'un village de 1000 habitants. Et donc d'un seul coup, j'ai pris tout dans la face et j'avoue que c'est pas comme ça que j'avais envie de le raconter. Mais après, il faut recontextualiser. On était à une époque où l'athlète était un super héros et donc on pensait qu'on pouvait facilement le mettre exactement où on souhaitait le mettre. En fait, moi, j'ai toujours subi. Juste pour l'anecdote, on m'a appelé The Answer, la réponse.
Ah oui,
ah oui. Moi, la réponse, c'est Néo, quoi, c'est The One.
The One, mais c'était un peu ça, mais vraiment.
La réponse à tous les
L'éluge.
En fait,
alors qu'aujourd'hui, tu serais plutôt le problème pour aller quand même.
Pour aller. Non, en fait, il faut se rendre compte, on n'en avait jamais eu de grand. Et en fait, pour gagner au basket à l'époque, ça a un petit peu changé, même si.
C'est vrai qu'il est tout petit.
Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que, on est, mis à part Wemby, qui est quand même une anomalie, entre guillemets, on est un petit peu moins grand, surtout en NBA, par exemple. Mais à cette époque-là, on considérait que pour performer, il fallait être très grand. Et donc, on a mis sur mes épaules le poids d'une nation. Et j'avoue que j'aurais voulu, et je suis ravi pour les jeunes de maintenant qui peuvent reprendre le storytelling, raconter leur histoire de leur manière. Mais c'est vrai que moi, on me l'a imposé. Et que parfois, bah, j'étais pas dans les clous parce que c'était pas mes attentes.
Mais alors, c'est quoi, qu'est-ce que tu aurais voulu raconter?
Bah, j'aurais voulu raconter.
T'aurais voulu dire, j'aime juste le basket, je suis un gars de Lorraine.
Moi, j'ai de l'ambition, je vais être très bon, mais commencez pas à dire que je vais sauver la nation, commencez pas à dire que sans moi, le basket est fini, etc. Faut se rendre compte que j'ai eu des articles de ce type, quand même. Et j'avoue.
Aujourd'hui, il y a une maîtrise de son propre récit qui est un peu plus importante que par le passé.
C'est plus simple aussi parce qu'on écoute de plus en plus les gens aussi. Parce que, et je sais pas si vous avez lu ou entendu ce qu'avait dit Victor Wembanyama quand il explique qu'il ne doit pas être dépendant de ses émotions. C'est-à-dire qu'en gros, s'il a envie de pleurer, il va pleurer. S'il a envie de faire ça, il va le faire. À mon époque, c'était pas possible. Mais à mon époque, le fait de pleurer, le fait de se plaindre, de dire que t'es pas bien, c'était un aveu de faiblesse. Et donc, tu pouvais pas.
Et en racontant son histoire, en plus, il prépare le public et les médias.
Exactement.
Aussi, quand la situation va arriver, pour qu'on le comprenne
il
un peu plus.
Il crée son storytelling, il explique qui il est vraiment. Et
il le crée, mais il est sincère.
Oui, il est sincère. Mais il le crée dans le sens où.
Il est
maître de son storytelling.
Voilà qui je suis.
Exactement.
Voilà.
Mais quelque part, il a un peu les mêmes facultés que toi. Ça, c'est la réponse à tout ce qu'on se pose comme question dans le basket. C'est l'élu, celui
mais
qui.
Mais lui, il a choisi.
Oui, mais
ça ressemble un peu à ce que.
Mais lui, effectivement, il l'a choisi. En fait, c'est différent de se dire je veux être l'élu, je veux être le meilleur, plutôt que de dire tu es l'élu, tu es le meilleur. c'est pas exactement la même posture, et j'aurais aimé que les gens comprennent que je suis un mec sensible, que c'est pas toujours facile pour moi d'enchaîner, que cette pression était peut-être innécessaire, alors que lui, c'est un mec qui est né pour ça. Il y a des gens qui sont nés pour ça, et je suis ravi pour lui que lui ait ses épaules pour le faire. Tout le monde les a pas, en fait.
On est dans le vestiaire des grandes gueules du sport. On parle de l'importance de raconter son histoire quand on est sportif de haut niveau. En tout cas, être peut-être maître de son récit, comme le fait Paul Seixas. Alors, Sarah, toi, t'as une double casquette aujourd'hui, ancienne sportive de haut niveau, et aussi tu travailles dans la communication. Tu accompagnes parfois des sportifs, justement, et tu les conseilles pour savoir comment, justement, faire avec leur histoire. Déjà, toi, sur ta carrière de sportive, est-ce que c'était important pour toi de raconter qui tu étais? Au début de ta carrière, par exemple, te présenter.
Oui, mais on n'avait pas les outils pour. On n'avait pas les outils pour, puisque en fait le seul moyen de te juger, ou en tout cas que les gens te jugent, c'était sur la prestation, tes matchs en fait, puisqu'on avait le seul moment où on s'exprimait, c'était en conférence de presse. Oui. Il y avait pas de contenu au-delà finalement du tournoi. Donc les gens ou les médias te percevaient que parce que tu donnais en conférence de presse. Donc il pouvait y avoir un décalage parce que encore une fois, je le répète et j'arrête pas de le répéter, au tennis tu perds plus que ce que tu gagnes et que tu perds chaque semaine. Donc tu te présentes souvent en ayant perdu. Et je pense que ça a été, en tout cas moi, ça a été quelque chose qui a été lourd. Très lourd à porter, parce que ce que j'étais sur le terrain n'était pas ce que j'étais à l'extérieur, mais j'avais pas les moyens de le montrer autrement. Et ce que je vivais sur le terrain était tellement un tremblement de terre que j'arrivais pas à passer au-dessus de mes émotions. Donc on me jugeait. Finalement, on me jugeait sur ce qui se passait sur le terrain.
Tu veux dire quoi? Tu penses que l'environnement médiatique et des spectateurs ont peut-être eu du mal à comprendre qui tu étais, mais finalement, en ta carrière? Ils n'ont jamais compris?
Jamais compris, je ne sais pas. Mais parce que tu n'avais pas les moyens de te faire connaître. Aujourd'hui, ce qui est fantastique, c'est l'avènement des médias digitaux, mais en fait, ça n'a pas que du négatif. C'est-à-dire que tu peux raconter ta propre histoire, tu peux te montrer comme tu veux.
Il y a des médias de confidence presque aujourd'hui.
Oui, en fait, et puis t'es ton propre média. Donc si tu veux jouer la sincérité, tu racontes ton storytelling. Si tu veux jouer la carte de jouer un rôle, tu joues un rôle à toi d'assumer les conséquences de ce que tu présentes, en fait. Et c'est ça où, finalement, je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même un gain par rapport à ça, et c'est important. Parce qu'en fait, tu vends ton image sur le terrain, mais tu vends ton image en dehors. Et ça, c'est important. Et c'est ta valeur. Et ça peut être ta valeur marchande. Donc voilà, il faut être capable de s'aligner sur ce genre de sujet.
Alizé, pour le coup, dans ta carrière, c'est vrai que nous, on est tous marqués, je pense, par tes débuts. On se souvient, c'était la lycéenne qui joue à Roland-Garros contre son idole, Amélie Mauresmo. C'était quelque chose que tu voulais raconter ou qu'on a raconté à ta place? Qu'est-ce qu'on peut en dire?
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup plus de contrôle sur ce qu'on veut dire de soi, sur l'image qu'on veut renvoyer, sur ce storytelling dont on parle depuis tout à l'heure. Moi je l'ai un petit peu fait quand même, ce storytelling, inconsciemment je pense, dès le début. J'ai toujours pris le parti d'essayer d'avoir une bonne relation avec les journalistes, parce qu'en fait, pour rebondir sur ce que disait Sarah, en fait les seules choses sur lesquelles les gens pouvaient nous juger, c'était les articles. Alors c'était les prestations sportives certes, mais c'était aussi les papiers qui sortaient après ces matchs. Et au final, même après une défaite, on avait l'occasion de dire quelque chose sur soi, sur son ressenti. Et c'est vrai que moi j'ai toujours été un livre ouvert, peut-être trop, mais j'ai pris ce parti de me confier et de toujours mettre un genou à terre quand je le devais, prendre mes responsabilités, partager mes émotions, mon ressenti, en me disant que au mieux les journalistes allaient apprendre à me connaître et au mieux ils allaient réussir à faire passer une image, on va dire, fidèle de qui j'étais. Alors ça n'a pas toujours été le cas, mais je pense qu'au cours de ma carrière, ce qu'on a écrit de moi était quand même plus ou moins fidèle à ce que j'étais. C'est-à-dire, j'avais un sacré tempérament, certes, mais il y avait effectivement aussi cette histoire à mes débuts de bon élève, de lycéenne qui passait son bac en même temps que ses premières années à Roland. Et ça, effectivement, c'est quelque chose que j'ai choisi de partager. Mais c'était un choix, c'était un parti pris, en fait, que j'ai fait très tôt et que j'ai continué à faire tout au long de ma carrière.
Tu dis, t'es au début, t'es pas sûr de l'avoir fait consciemment. Ouais. C'était quelque chose que t'avais
assez
en toi.
Instinctif.
Après,
ouais.
Et puis après, au fur et à mesure des années.
Et après, contrairement à toi, moi j'ai eu l'avènement quand même des réseaux sociaux où j'ai pu raconter ma propre histoire. Mais c'est vrai que sur les cinq, six premières années de ma carrière, c'était quand même, ça dépendait beaucoup des journalistes et de ce que je
finalement, c'est la meilleure manière de contrôler son image plutôt que de laisser libre cours. Si tu te fermes,
c'est ce que je me suis dit.
Si tu donnes pas d'interview, les papiers qui peuvent être écrits peuvent être complètement faux.
Les papiers vont être écrit. Ouais. Donc, s'ils ont rien à se mettre sur leurs dents, sous la dent, ils vont forcément spéculer, raconter une histoire qui n'est pas la nôtre. Et moi, je me suis dit, au plus je donne des infos, et au plus ça risque de rester dans la lignée de ce que je veux montrer. Après, on peut pas tout contrôler de toute façon. Ce qui est écrit dans la presse, à un moment donné, il faut s'en détacher. Mais voilà, en tout cas, moi, c'était mon pari.
Et tu as eu des bonnes relations avec les journalistes?
Très bonnes. Voilà. Excellentes, du début à la fin.
Et tu sens que de fait d'avoir des bonnes relations avec ces gens-là, qui te suivent au quotidien, a fait que ton image est restée plutôt positive.
Le truc, c'est qu'après, mon image, elle a eu aidé au débat, mais j'en étais la seule responsable, puisque quand je me comportais mal sur le terrain, finalement, les journalistes, ils n'étaient pas là pour m'enfoncer, juste ils essayaient de retranscrire ce qui se passait sur le court.
Mais parce qu'en fait, dans ce que tu as dit de toi, c'était très sincère. Tu as dit, voilà qui je suis.
J'ai donc toujours
voilà
été très sincère.
Vous me prenez comme je suis, en fait.
Exactement. Ça ne marche pas pour tout le monde.
Ça ne marche pas pour tout le monde.
Surtout, moi, je suis d'une génération, je suis un peu plus âgé que toi, déjà. Je suis un homme, et à l'époque, les hommes n'avaient pas le droit d'avoir des failles, il faut se rappeler de ça aussi.
Ça, c'est vrai.
C'est vrai que moi, j'ai eu parfois de très mauvaises relations avec la presse, parce qu'ils pensaient que j'étais nonchalant, etc. Sauf que mon attitude, j'ai l'air nonchalant.
Mais est-ce que tu es vraiment livré?
Quand je vois Victor Wembanyama, moi, en fait, je joue à un poste où normalement, t'es l'énorme bourrin qui tape sur tout le monde, d'accord? Je schématise un peu pour les non-basketteurs. Et en fait, quand je vois Victor Wembanyama qui explique qu'il joue aux échecs, qu'il lit des livres, etc., en fait, j'étais ce mec-là.
Ouais.
J'étais ce mec qui, quand j'étais dans mon collège privé, pendant que tout le monde, entre midi et deux, allait faire du sport, moi, je jouais aux échecs avec les mecs. Mais à notre époque, c'était pas intéressant de parler de ça. Ce qui était plus intéressant, c'est de dire, ce joueur fait ça, fait
ci. On restait sur le sportif un peu plus.
Je suis pas d'accord avec toi, j'ai un exemple à te donner.
Moi, j'ai été souvent considéré comme un des mecs qui répondait le mieux à la presse, en basket. Et j'étais plutôt ouvert, etc. Sauf que, à l'époque, et alors je ne parle pas de toi, je parle des gens en général, l'intérêt de gratter un petit peu, de se dire, c'est pas qu'un énorme bourrin, il sait lire, déjà c'est pas mal, il sait jouer aux échecs, etc., ça n'intéresse
mais
pas.
Mais tu veux dire, on vous enfermait un peu plus facilement dans les cases aussi.
On se mettait dans les cases plus facilement. Victor Wembanyama me fait, j'avoue que quand il parle des échecs, ça me fait rire, parce que je me dis, en fait, je faisais ça à l'époque et personne n'a jamais dit c'est génial.
J'ai un contre-exemple total un mec qui s'appelle Serge Chimon, qui a présenté les grandes gueules du sport avec Sarah, avec moi.
C'est un rugbyman.
Qui était sur le terrain, qui était une bête fauve, qui mettait dans les doigts dans les yeux de ses adversaires, qui se bagarrait, qui était le grand copain de Vincent Moscato et qui, en plus de sa carrière de sportif de haut niveau, était médecin. Il avait fait des études de médecine très poussées, il était spécialiste et tout. Et justement, lui, il n'a pas voulu s'enfermer. Alors, sous le terrain, il s'enfermait vraiment dans ce personnage de bad boy, de méchant garçon, de mec qui était capable de faire tous les coups. Mais dès que tu le sortais du terrain, c'était un mec avec qui tu pouvais parler de tout, de culture, de peinture, de musique, de politique. Mais c'est lui qui a imposé, finalement, aux gens qui venaient l'interroger, en lui disant... Ok les gars, sur le terrain je suis une brute, mais je ne suis pas
ça. Ah oui, mais justement, il a raconté son histoire.
Il a réussi à prendre le cours de son narratif, mais moi, quand on venait me poser une question, en fait, ça dépend comment tu orientes.
Tu peux pas rediriger le débat tout le temps vers ceux dont tu veux parler. En fait,
si quelqu'un vient en te disant, ouais, c'est bien, t'as donné les coups qu'il fallait.
Non, mais en fait, j'ai envie de parler d'échecs et de livres aujourd'hui.
C'est pas possible. Les mecs, ça les intéressait pas du tout.
Il y parvenait.
Il forçait le débat, en fait. Il forçait le.
Après, c'est une intelligence supérieure. C'est un mec brillantissime. Donc, il recadrait. Ça allait dans le sens qu'il voulait donner, quoi.
Non mais en fait c'est quand même essentiel. Je sais pas, Alizé aujourd'hui, t'es capitaine de l'équipe de France de Billie Jean King Cup, par exemple. T'es plus dans la transmission, par exemple. T'es avec des jeunes femmes, des jeunes athlètes, mais qui sont avant d'être des jeunes athlètes, des jeunes femmes. Est-ce que ça fait partie des discussions que tu as aussi sur l'importance, je sais pas, de dire qui vous êtes? De faire attention, peut-être pas encore aujourd'hui, mais est-ce que toi c'est des réflexions que tu as en tout cas dans ce que t'as envie de transmettre aux jeunes athlètes?
C'est une très bonne question. Moi, j'essaie de faire en sorte de leur faire un peu mieux vivre leur carrière pour ce qui est de leur image et de ce qu'elles veulent raconter. Pour l'instant, moi, je m'immisce pas là-dedans. Elles sont toutes des adultes et elles ont toutes les outils, comme disait Sarah, pour finalement le faire elles-mêmes à travers leurs réseaux sociaux et tout ça. Mais c'est vrai que c'est bien de les sensibiliser finalement sur cette image qui va les suivre toute une carrière.
Et même après.
Et même après, j'ai eu des conversations, notamment avec Elsa Jacquemot, qui a eu un, qui a un début de carrière un peu clivant, qui a fait beaucoup parler d'elle pas dans le bon sens. Et c'est vrai qu'on sent là qu'elle a envie quand même de retourner la situation parce que c'est une fille super attachante. Et en fait, le grand public ne le voit pas, ça.
L'image ne correspond pas. Et ce qu'elle est ne correspond pas à l'image que l'on a eue.
Mais exactement.
C'est pour ça que c'est intéressant. Christina Mladenovic, par exemple, qui était ta copine, qui elle a une image pas terrible non plus auprès du grand public. Parce qu'elle aime pas les journalistes, elle aime pas donner des interviews.
Ah, c'est drôle. Ah, on n'a pas la même vision des choses de l'intérieur. Moi, j'ai pas cette vision là, mais en tout cas, oui, ça se travaille et en fait, c'est bien d'en avoir conscience. Après, on peut s'en foutre. Moi, je pense qu'il y a des athlètes vraiment qui traversent ça et qui se disent tant que mon cercle proche, c'est qui je suis. Ça suffit. Ouais. Et finalement, je m'en fiche de savoir ce que pensent les autres au sens global du terme.
Mais alors, vous avez moins besoin de journalistes. Il y a des influenceurs qui sont là
Mais d'autres comme moi qui ont quand même préfèrent. En tout cas, qui donne un peu plus d'importance à ce que les autres peuvent penser et qui préfère avoir quand même une image un peu plus fidèle.
Mais pourquoi c'est hyper important? Parce que on rebondit évidemment à la vidéo de Paul Sexa cette semaine et son annonce, mais parce que la façon dont Sexa se présente, d'aller voir papy et mamie, dans le fin fond de la France, leur annoncer la nouvelle,
de
montrer l'importance que ça a le Tour de France pour les Français, pour ses grands-parents, pour lui, ce que ça représente. Il y a quelque chose dans l'histoire qu'il veut raconter. Du lien qu'il a envie d'avoir avec nous, en fait.
Très humain.
Voilà, exactement. Très proche. Il construit.
Est-ce que c'est lui
avec sa communication, il construit un lien
avec
nous.
C'est pas lui, c'est pas son idée à lui.
Ouais, voilà.
Mais peut-être, Sarah.
Sarah, toi qui travailles dans la com.
Il a des gens qui sont. Il a des gens de l'équipe. Et il a une équipe que pour lui, Paul Sexa, sans communication. Il a son propre attaché de presse. Et je pense que c'est travailler aussi pour. En fait, tu construis pas une image qui n'est pas la tienne. Il a été forcément guidé en disant on pourrait le faire comme ça. Et comme tu le disais, c'est très juste parce qu'on parle d'un sport populaire. Le cyclisme est un sport populaire, est un sport pratiqué par, je sais pas, des millions et des millions de Français. Le Tour de France est un événement régional, gratuit, où on va tous à un moment ou un autre au bord de la route. Et ses grands-parents étaient les personnes qui étaient au bord de ces routes. C'est tout à fait le public qu'on voit au bord des routes. Donc en fait, ça a été pensé par rapport à ce qu'il est, par rapport à son sport et par rapport à l'image qu'il veut donner.
Par rapport à ce que nous sommes, Français.
Et qui correspond à ce qu'est le Tour de France dans le monde entier. Le Tour de France, c'est le Tour de la France, donc le tour de toutes les régions. Mais je pense pas, enfin, il a autre chose à penser que de se dire, bon, alors comment je vais l'annoncer?
Il valide ce genre de projet, il y adère et ensuite il y va.
Il y adhère, mais effectivement, c'est pas lui qui a eu cette idée au départ.
Parce qu'en fait, c'est déterminant, parce qu'on en parlait avec Sarah en préparant l'émission. Ça aurait été, je pense, en termes d'image, je sais pas si catastrophique, mais complètement différent si Paul Sexa s'était allé sur le plateau du 20h de Gilles Boulot sur TF1 en disant, oui, je vais faire le Tour de France. Il y aurait quelque chose de très arrogant et qui aurait été marquant. Dans son histoire, et dans l'histoire qu'il aurait eu avec nous, on aurait dit mais qu'est-ce que c'est que
mais
ce gars-là,
c'est en décalage.
Il a 19 ans,
mais par rapport à lui, mais par rapport à son sport à lui.
Pour moi, c'est un coup de maître.
Ah ouais, non mais moi, c'est coup de maître.
Qu'est-ce que tu dis aux sportifs avec qui tu travailles par exemple,
C'est de la sincérité.
Ça passe toujours mieux.
Si tu es sincère dès le début, quand ça ira moins bien, on te tombera pas dessus. C'est-à-dire qu'il y aura une clémence,
il y aura une
bienveillance, voilà. Mais si tu joues un rôle, à un moment, l'effet boomerang, il arrive toujours.
Alors j'ai Nico sur WhatsApp, on va refermer la porte du vestiaire, évidemment.
Et moi, je vais mettre le mousqueton.
Non, mais qui me dit, moi, je regarde surtout le sport pour les performances sportives, pas forcément pour les histoires et tout ça. Et oui, mais aujourd'hui, il y en a effectivement comme ça, mais c'est quelque chose de plus global. C'est pas pour rien s'il y a de plus en plus de documentaires, par exemple, sur les plateformes. Qui racontent les sportifs dans leur intimité.
Il en faut pour tous les goûts
sur ça, exactement. Et si la formule remarche aujourd'hui, c'est aussi parce que le public a appris à connaître un peu plus les pilotes.
Ce qui m'intéresse dans le sport, ce sont les histoires humaines, les constructions de champions et tout ça, plus que la performance sportive en elle-même.
On a parlé du Giro et de Paul Magnier. Quand je vois qu'on a ça sur le conducteur, je suis allée regarder le même reportage que toi et donc je me suis fait une image de ce jeune de 22 ans Paul Magnier, mais comment tu veux que je me fasse une image de lui si je vois juste ces 500 derniers mètres où il fait un sprint? Comment tu veux que je me fasse une idée de
et auditrice, cette personne? Pensez un peu chez vous à quelle importance ça a eu dans votre relation avec le sportif de voir Kylian Mbappé sur TF1 dans le journal annoncer dans le journal de TF1 qu'il allait prolonger au Paris Saint-Germain, de voir Antoine Griezmann annoncer dans une vidéo montée ultra marquée inquiété sa décision d'aller au Barça. Quelle coïncidence a eu sur votre relation?
LeBron
James a annoncé la mise en scène, The Decision, quitter son équipe de toujours les Cleveland Cavaliers pour aller à Miami. Ça a eu une incidence dans le lien entre le sportif et le public. Ce n'est pas du tout anodin, ce dont on parle, c'est central.
Et en même temps, l'image, l'identité d'un Aimé Jacquet, par exemple, vu dans les yeux, dans les bleus, a complètement été changée par le documentaire. Ouais. Et il est devenu une icône nationale, non seulement parce qu'il avait remporté la Coupe du Monde, mais après, avec ce documentaire qui a fait entrer les Français dans cette pantoufle.
Muscle en jeu, Christophe.
Attendez, je crois qu'on a pas bien fermé la porte du vestiaire.
Ah, c'est parfait! Ah, il est fort.
Mais c'est pas un vestiaire, c'est thriller.
vous venez d'entendre Alizé Cornet, c'est un délire quand même. Elle a un niveau d'effet spécial, c'est incroyable. Bon, allez.